Limoges est connu pour son savoir-faire dans les métiers de la céramique et notamment pour sa porcelaine. Découvert en 1767 à Saint-Thierry-la-Perche, près de la capitale limousine, le gisement de kaolin, matière première de la porcelaine, va lancer l'histoire industrielle de cette céramique mythique. Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, Bob FM est allé à la rencontre du craft, un haut lieu de la création artistique de la porcelaine et de la céramique. Autour d'un café, différents acteurs ont pu échanger autour de l'histoire du quartier Labussière, de ses emblématiques fours et de ses manufactures, de la création artistique et de son rayonnement.
Bonjour, je suis Pauline Mal, la directrice du CRAFT, le centre de recherche sur les arts du feu et de la terre. Nous sommes une structure qui un atelier de création céramique, de création contemporaine. Nous accueillons des artistes à imaginer des projets qui seront ensuite réalisés au sein de notre atelier. Donc moi, j'aime bien un peu cette définition de dire que tous les projets qui se font au CRAFT se font grâce à l'imaginaire de l'artiste et le savoir-faire des techniciens du CRAFT.
Nous, on est installés dans ce lieu, donc c'est une ancienne manufacture de porcelaine, les porcelaines pleines maison, qui ont été construites autour de 1889.
Anaïs Petit, coordinatrice d'action culturelle au CRAFT.
Et la région nous a installés ici en 2015, donc on a réaménagé le lieu et surtout installé l'atelier avec les fours, puisqu'on a au total 4 fours, 2 fours gaz, 2 fours électriques, plus des fours à essai, plus tout le matériel en fait nécessaire. Au total c'est 400 mètres carrés et on a donc cette partie production et puis cette partie exposition avec cette salle qui a été rénovée en 2023 d'ailleurs, pour les 30 ans du craft, dans laquelle on présente une grande partie de la collection puisque... Depuis 30 ans, quand des artistes produisent des œuvres, elles peuvent être reproduites, en fait, ou réalisées en 2 exemplaires, et elles rentrent dans la collection du craft. Donc on a quand même près de 250 œuvres céramiques qui sont présentées et visibles par le public au moment des ouvertures. Donc, du 7 au 12 avril, et comme tous les ans, c'est les Journées européennes des métiers d'art. Donc, ce sont des événements où des ateliers, des manufactures ouvrent au grand public de façon gratuite et puis de façon exceptionnelle, puisqu'il y a des manufactures qui ouvrent vraiment qu'à cette occasion-là. Un petit peu comme les Journées du patrimoine, mais plutôt pour les métiers d'art, disons. Et nous, au Craft, c'est un événement immanquable. On ouvre le week-end et on organise un programme, en fait, dédié à tous, aux curieux, aux familles. Donc, le mercredi, on a des ateliers duo. Ce week-end, on aura des visites en famille. Et puis, donc, aujourd'hui, c'était cette rencontre, en fait, qu'on voulait plutôt sur le volet historique et puis pour rappeler le passé du quartier Labussière. Puisque ce quartier représente quand même le développement industriel porcelainier à Limoges et rappelle donc l'histoire du bâtiment dans lequel on est et l'histoire de la porcelaine de Limoges, donc ce patrimoine immatériel qu'on continue de faire vivre ici.
Oui, donc j'ai commencé tout à l'heure, donc
Alain Chassagnard, président de l'association Espace Porcelaine.
Donc j'étais au départ un technicien de mise en service et qui a évolué après dans la hiérarchie puisque je suis devenu patron de la société Koudami qui s'est transformée en Céric Vistra après. Donc j'ai été responsable de cette unité-là après dans les années 2000. Ah, je suis arrivé en 70 à Limoges, donc... moi, j'habitais pas forcément dans le quartier, mais on travaillait énormément dans le quartier, puisqu'en fait, il y avait beaucoup de porcelainiers ici dans le quartier. Notamment, il y avait Théodore Avilan, il y avait Boyer rue La Fontaine, il y avait Renault ici dans le quartier, les porcelaines Chapu, il y avait Florence qui était dans ce quartier-là. Donc, c'était un quartier énormément céramique, puisque... la partie Émile Labussière, donc avec derrière toute la rue de la céramique, notamment, qui est là, et puis les usines, le Maloubier, qui était l'ancienne usine Charles Avilande, donc toute la saga Avilande. Bon, moi j'ai étudié toute cette chose-là, donc entre les deux frères, c'était extrêmement compliqué, ils étaient même s'ils étaient frères, ils étaient ennemis dans la vie publique. Et c'est vrai qu'à l'époque, tous ces usines de porcelaine, je les ai connues. C'est vrai, un peu dans la décadence, parce qu'il restait déjà, Charles-la-Vilaine était déjà fermé depuis longtemps. Mais en fait, il y avait tout le reste d'autres ces usines. L'usine Boyer était une usine assez importante quand même, donc, qui a été regroupée avec MNP aujourd'hui à Vilande, en zone nord. Donc toutes ces choses-là, j'ai connu toutes les installations de four sur ces choses-là. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on intervenait pour régler certains problèmes céramiques, parce qu'il faut penser aussi que dans les usines de porcelaine, à l'époque, il n'y avait pas d'ingénieurs céramiques. C'était des responsables de fabrication, mais qui étaient des gens du cru, qui étaient des gens qui avaient évolué avec la technologie. Et cette technologie-là, qui était à l'époque, il n'y avait pas de four automatique, à l'époque, tous les fours étaient manuels. Et qui dit manuel, la conduite d'un four, aujourd'hui, elle est simple. Une femme de ménage peut démarrer un four, ça ne pose pas de problème. Je ne rabaisse pas les femmes de ménage. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il suffit d'appuyer sur un bouton et on peut démarrer un four. Quiconque peut démarrer un four. À l'époque, les cuissons de four, dans les usines, il y avait des cuiseurs. Les cuiseurs qui étaient les personnages relativement importants pour l'usine, parce que c'était eux qui avaient un peu le savoir-faire de la cuisine exactement, parce que le four c'était de la cuisine. Les fours à induits, ce qu'on appelait à l'époque, c'était des fours manuels, et ces fours-là, ils étaient bien sûr, il y avait des critères qu'on maîtrisait et d'autres qu'on maîtrisait moins. Notamment, aujourd'hui, le gaz, il ne bougeait pas trop à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus vrai, mais à l'époque, il ne bougeait pas. Donc, on était sur du gaz de lac à l'époque. Et donc, il n'y avait pas trop de soucis particuliers sur le sujet. Mais par contre, qui dit air induit, ce que j'appelle air induit, c'est que c'est le tirage naturel qui intervenait dans le réglage air-gaz sur la combustion des brûleurs. Et entre une journée où on est plein soleil ou une journée où on a une chape de plomb avec un brouillard, le tirage était totalement différent. Donc il fallait compenser au niveau des réglages du four en fonction du tirage extérieur. Donc ça, c'était... le cuiseur avait une fonction quand même assez particulière. Alors c'est vrai que... On leur demandait pas, on prenait des marges de sécurité qu'on ne prend pas aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais les marges de sécurité, c'est-à-dire qu'on avait des taux de réduction et des temps de cycle de four, qui étaient un cycle de four, c'était 24 heures à l'époque. Aujourd'hui, ça peut être 12 heures, ça peut être des choses comme ça. Donc, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il faut être un peu plus pointu. À l'époque, on prenait des marges de sécurité importantes. Donc on n'avait pas besoin de techniciens de haut vol, mais c'était des gens qui étaient fiables, qui étaient sûrs de ce qu'ils faisaient et qui connaissaient un petit peu. À l'époque, il y avait aussi, on faisait des analyses de fumée du four pour le conduire, le four, parce que c'est ce qui donne effectivement le taux d'oxydation, le taux de réduction, et puis à la fin, le taux de neutre qu'on a besoin pour finir la cuisson. Donc... les analyses étaient faites avec des appareils assez compliqués, puisque c'était des appareils type Dorsa, et qui sont c'est des réactifs chimiques qui sont dedans, et où on faisait barboter l'échantillon de gaz qu'on prenait, et qu'on vérifiait le taux de CO ou le taux de CO2. Donc, il aurait fallu effectivement quelqu'un qui soit peut-être bien formé. On ne formait pas trop les gens, la formation à l'époque n'était pas très importante. Alors, pour la petite histoire, on trouvait aussi, il y avait un cahier de four, sur chaque four, il y avait un cahier, où ils vérifiaient et ils mesuraient, ils inscrivaient toutes les analyses qui étaient faites. On leur demandait de faire des analyses toutes les heures, donc sur 24 heures, parce que le cuiseur, il restait devant le four pendant 24 heures. Alors, ils se relayaient, ils n'étaient pas tout seuls, hein, donc on ne lui demandait pas de rester 24 heures, mais ils restaient quand même les nuits et tout ça, donc il y avait un truc. Ils faisaient des analyses de four, et moi j'ai connu beaucoup de cuiseurs, j'ai puisque j'ai passé des nuits avec eux, donc on a le temps de discuter pendant toutes ces choses-là, et on a le temps de voir comment ils fonctionnent. Simplement, ils ne se posaient pas trop de questions, ils prenaient la feuille d'avant et ils recopiaient l'analyse qu'ils avaient trouvée ou qu'ils avaient enregistrée la veille. Donc sur les cahiers, c'était tout parfait, toutes les analyses étaient parfaites du début à la fin. En fait, ils n'en faisaient jamais et ils laissaient faire ça. Mais dans la mesure où la cuisson sortait correcte, personne, tout le monde s'en satisfaisait. Donc ça, c'était un truc. Et alors ces cuiseurs four, j'ai beaucoup appris avec eux, c'est vrai, parce qu'ils connaissaient parfaitement leur matériel. Et ils ne savaient pas pourquoi, mais ils savaient que s'ils faisaient telle manœuvre, ils allaient avoir tel résultat. Et moi, notamment, j'en connaissais un à l'époque où j'avais beaucoup discuté avec lui. C'était à l'époque, c'était chez Chastagnier, l'usine Chastagnier qui était au Cassot, là-bas. Et le cuiseur me disait, « Ah, la petite, on va avoir deux assiettes qui seront jaunes. Ben, » Je dis, « Je ne vois pas pourquoi vous pouvez dire ça. Ben, » Il dit, « Si, si, tu vas voir. Moi non plus, je ne sais pas, mais je sais que là, on aura ça. » Et c'est lui qui avait raison. Donc, après, l'explication, on la savait, parce qu'il y avait une entrée d'air qui était faite. Mais bon, au début, lui, il savait que ça allait être comme ça. Donc, ils avaient aussi le pouvoir aussi de... Allez, je ne veux pas dire de planquer un petit peu les résultats, mais c'est eux qui assistaient au défournement. On n'ouvrait jamais un four si le cuiseur n'était pas là. Donc, il n'y avait pas... Personne ne pouvait intervenir sur la partie four. Ils avaient la maîtrise totale du four. Et ils allaient... découvrir le résultat, c'est eux qui les voyaient en premier, et ils savaient très bien, s'il y avait deux, trois pièces qui n'étaient pas bonnes, on les mettait dans la poubelle et on n'en parlait plus. Donc ouais, c'était pas... Limoges, il y a eu beaucoup de quartiers, mais à l'époque, toutes les usines étaient en centre-ville. Hein, donc, le quartier Labussière était un haut lieu de la céramique. Je pense que quand on... Encore aujourd'hui, les gens qui passent dans l'avenue Labussière ne voient pas tous les éléments qu'il peut y avoir. Quand on regarde les façades des façades des immeubles qui sont brûlés. Il y a encore des pièces en porcelaine qui sont dans les façades tout à fait en haut. Et si on ne connaît pas... si on ne connaît pas toute l'histoire, on ne peut pas. Parce que ce quartier-là, donc l'avenue Émile Labussière, c'était une grande avenue de Limoges, et notamment à l'usine Théodore Avilan, où on avait, c'était l'usine, c'était le lieu des, des riches, mais des gens qui avaient un peu les moyens, parce que construire sur l'avenue Émile Labussière, c'était important, et c'était tous les peintres qui étaient là. Les maisons des peintres se trouvaient sur l'avenue Émile Labussière. Les ouvriers, ils avaient des maisons, mais qui étaient dans les quartiers intérieurs, mais pas en façade sur l'avenue Émile Labussière. Les peintres ou les responsables, mais enfin, c'était tous des gens comme ça. Cette avenue-là, c'était dédiée aux gens qui avaient les moyens, justement, d'avoir une façade sur la rue. La rue de la céramique a été un peu différente, elle, puisque c'était le quartier du Maloubier derrière, avec l'usine, aujourd'hui qui est devenue la Poste, hein, puis, mais c'était l'usine Charles Avilande. Et cette usine qui a été créée de toutes parts au départ a fonctionné, bien sûr, mais en fait, c'était moins... L'usine Avilande, elle avait pignon sur rue parce qu'elle était dans le quartier Labussière. Il y avait cette différence-là entre ces quartiers-là. Après, toutes les rues parallèles étaient des rues moins importantes. Et de toute façon, on avait quand même... Les porcelainiers, il y avait l'usine... Avilande, qui était arrivé des États-Unis, c'était déjà le monsieur de la céramique. et c'était pas forcément vrai pour tout le monde.
C'est marrant que Anaïs tu dises pas les mêmes quartiers, alors qu'en fait Théodore Havelange et Charles Havelange sont littéralement à 300 mètres oui. d'écart en fait. Mm-hmm. Mais t'as raison et c'est vrai qu'il y avait
de toute façon il y avait le long de la rue Émile Labussière, il n'y avait pas la place pour une autre usine.
Oui.
Et comme Charles Havelange a voulu faire une usine plus grande que son frère, avec plus de fours que son frère, donc il fallait trouver de la place. Et bon, ce quartier-là était à peu près libre à l'époque, parce que bon, le centre-ville de Limoges n'était pas chargé comme il était aujourd'hui. Hein, donc de toute façon, à l'époque, il y avait de la place.
Oui, mais le centre-ville de Limoges aussi, à ce moment-là, était pas le même qu'aujourd'hui. Ah non, c'était plutôt autour de Carnot et Gambetta. C'était ça le vrai.
Ici c'était la campagne, là.
Oui, c'est vrai.
Il était à la campagne, donc on était déjà en périphérie de Limoges, bien... on était même assez loin du centre.
Oui, ici, plein de maisons, ça a été construit en 1889. Et c'était effectivement, tu vois, des images de
autour, il n'y avait rien.
Autour, il n'y avait rien, c'est le champ. Mmh. Et ils avaient installé ici aussi pour être en dehors des fumées des autres manufactures. Donc, le fait d'être un peu en hauteur, apparemment, ils avaient moins de fumée. Mais
c'est bon. Pas ça, c'est le tirage.
Ah,
c'était des fours à air induit, donc il y avait besoin du tirage. Donc, plus tu étais en hauteur, plus c'était facile à arriver à faire cuire des fours.
Ah oui, j'ai revu, ils avaient les trois fours, en fait, ils étaient dans le bâtiment d'en face, en fait, avec les trois cheminées qui dépassaient là.
Oui, mais c'est images. Sûr qu'il y avait... Alors, il y avait un problème de hauteur de cheminée, parce qu'il fallait faire des cheminées suffisamment hautes pour qu'on puisse prendre le tirage et qu'on soit au-dessus des faîtages pour pouvoir le maîtriser.
T'as des souvenirs, toi, de ce paysage-là, avec
non.
toutes ces...
Non, j'ai vu des photos, mais c'est tout, ouais, c'est ouais, tout hein, non, donc j'ai ouais. pas de... Non, mais attends, j'ai pas 95 ans.
Ben non, je sais, non, mais 1970, je sais pas s'il y avait encore toutes ces cheminées-là, elles avaient toutes été écroulées déjà.
Tout était déjà, moi à l'époque, des usines. Il y avait des usines qui existaient, mais qui avaient déjà été transformées. Oui. On était passé à. Les fourrons étaient arrêtés à l'époque. Et c'était des fours air induit qui avaient été construits à partir de. De 50, 55 à 60.
Ici, plein de maisons, ça s'arrêtait autour de 1917-1920. Ils ont ouais. terminé la production ici. Et déjà, tu disais, pour Havelange, bien avant, pour sauver l'usine, ils faisaient de la sous-traitance pour Havelange. Mmh. Dans les carnets de livraison, on retrouve des écrits où ça s'appelait plus d'ailleurs déjà ici plein de maisons frères, ça s'appelait Porcelaine Beaublanc. Et donc, on voit les écrits Porcelaine Blanche et Décorée. Et déjà, ils faisaient de la sous-traitance pour Havelange. Alors, c'est pas écrit production Havelange, hein, c'est écrit sous-traitance, mais en gros, enfin, c'est des grosses quantités. Et des historiens ont vu, en fait, avec les relevés d'Havelange, que c'était certainement ici. Mais en fait, plein de maisons, c'était pas les seuls à faire cette sous-traitance. Il y avait quand même d'autres manufactures autour qui le faisaient pour eux.
Avait,
pour dire à quel point c'était une usine
mal,
importante.
Une usine comme Chaput, qui était là, en dessous, là. Ils fabriquaient que de la sous-traitance, ils faisaient que du blanc. Ouais. Donc ils travaillaient pour Renault, mais ils travaillaient pour d'autres aussi. Donc je suppose qu'il devait y avoir Havelange, parce que Havelange faisait beaucoup de sous-traitance quand même. Hein. Donc ils avaient un marché assez important, donc il fallait absolument récupérer du blanc un peu partout. Je ne sais pas si j'ai un souvenir particulier. Moi, à l'époque, le souvenir du quartier, c'est les usines quand même. C'est le nom de Havelange qui était quand même primordial. Quand on passait là, on voyait l'usine Havelange. Et je veux dire, on ne faisait pas la génuflexion devant, mais c'était un peu ça, quoi. Donc c'était le respect d'un grand bonhomme quand même, hein, puisqu'il a failli oser pour venir s'installer à Limoges pour faire des choses comme ça. Et je pense que quand même, il a donné un certain élan à la porcelaine de Limoges et un renom aussi derrière, parce qu'aux États-Unis, on parle encore beaucoup de la porcelaine de Limoges. Et je pense que le nom de Havelange reste quand même une marque de fabrique.
Tu sais qu'il y a une étude qui est sortie d'une sociologue, alors c'était pas que sur la porcelaine de Limoges, mais la porcelaine de Limoges en fait partie, qui a montré qu'en fait, les Limougeauds n'avaient pas forcément d'attachement à la porcelaine de Limoges. Alors nous, on est entouré de gens qui travaillent dans le milieu de la porcelaine. Moi, j'ai un attachement à la porcelaine de Limoges. Ça m'a vachement étonnée de voir cette étude-là. Mais qu'en fait, en général, les gens qui habitent à Limoges et en Haute-Vienne n'ont pas trop d'attachement à ça.
Mais ils ne connaissent pas.
Ils ne connaissent pas.
Ils connaissent pas les usines, les choses comme ça. La plupart des gens, enfin, je vois pour... avoir et être toujours encore en lien avec le four des Cassots, quand on a les visites, il y a beaucoup de gens de Limoges qui viennent visiter et ils sont étonnés de trouver un four comme ça. Pourtant, la cheminée se voit, mais des choses comme ça. Mais ils sont absolument hors sujet quand on parle de la porcelaine. Et c'est des gens purs Limougeaux.
Donc c'est. Après, je pense qu'ils voyaient Pauline Malle,
le bord du navet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui
directrice
ont
du
vu
craft.
Ça, mais pas forcément. Tu vois, la production, je pense qu'il y a aussi des familles qui n'étaient pas forcément d'un milieu où ils achetaient aussi cette porcelaine. Il y avait aussi un peu ça, tu vois, où je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'ouvriers, quoi, tu vois, un peu aux alentours, qui voyaient cette production, mais qui n'allaient pas directement, qui n'allaient pas ni voir...
Il n'y avait pas forcément de magasins aussi qui vendaient de la porcelaine au détail, sur des choses comme ça. Donc la porcelaine de Limoges, elle s'exportait en général. Et sur place, il y en a sûrement qui se vendaient, mais on n'achetait pas forcément des services en porcelaine de Limoges. Comme tu dis, je pense que Limoges est une ville ouvrière quand même au départ. Et les gens, soit n'avaient pas les moyens, parce que c'est peut-être un problème de moyens, et puis c'était pas dans les têtes des gens. Il y a eu de la faïence, puisque avant la porcelaine, il y avait la faïence, toutes ces choses comme ça. Et c'était plus des gens à utiliser de la faïence que de la porcelaine. Après, ça a changé un peu, mais encore, on trouve encore beaucoup de gens qui n'ont pas la connaissance de l'histoire porcelainière de Limoges.
Même ici au Craft, quand on reçoit des visiteurs, il y en a beaucoup où je fais une petite aparté sur l'histoire de Limoges et du quartier, puisqu'on est dans une ancienne manufacture de porcelaine. Donc je rappelle tout ça. Il y a des gens qui sont pas du tout au courant de ce passé, des conditions de travail des anciens ouvriers, de comment tout s'est déplacé, tout s'est fait ici. Ouais. Et toi, chez toi, tu manges dans de la porcelaine ?
Toujours.
C'est vrai.
Toujours. J'ai banni tout ce qui était autre que de la porcelaine, même si c'est pas forcément de la porcelaine décorée, mais je trouve que à Limoges, c'est une honte de ne pas utiliser de la porcelaine. C'est comme boire dans un verre en plastique. Je ne peux pas. C'est pas pour ça que j'en utilise pas, mais... L'avenir de la porcelaine, je ne sais pas s'il faut en parler, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer là-dessus. Je pense que ça restera quand même un matériau intéressant, parce qu'on a vu à une époque qu'on a parlé de céramique technique. Bon, on s'aperçoit que la céramique technique, c'est quand même trop compliqué, et dans la technique, on demande de précision qu'on ne peut peut-être pas donner dans la porcelaine, parce que c'est un matériau vivant, et il est assez compliqué quand même d'avoir des précisions, à part de les rectifier, et auquel cas ça devient avec des coûts prohibitifs qui ne peuvent pas être utilisés. Donc j'y crois pas. Je pense que dans le luxe, ça restera un matériel de luxe, et on aura des gens qui pourront se l'acheter, d'autres qui ne pourront pas. Mais aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé, quand on voit... Chez Ikea, aujourd'hui, les assiettes, il ne faut pas les fabriquer pour le prix qu'ils les donnent. Et je comprends tout à fait les jeunes aujourd'hui qui n'achètent pas un service en porcelaine au départ et qui achètent des lots de porcelaine qui sont somme toute relativement corrects au niveau qualité et qui viennent à des prix qu'on ne peut pas fabriquer ici à Limoges. Donc... ça restera quand même un produit, après peut-être pour des gens un peu plus âgés qui ont les moyens de se le payer et qui se veulent faire une belle table, un beau plaisir.
Oui, moi j'ai hérité de quelques... Enfin, j'ai choisi, mais des services de ma grand-mère. et qui viennent d'ailleurs de mon arrière-grand-mère, mais parce qu'à l'époque, on offrait en mariage des services de porcelaine. Mais ça se perd parce que, du coup, qui se fait plus, du tout. Et ça se perd parce que moi, ma mère, elle aurait pu me donner deux armoires de porcelaine, en fait, mais j'ai dit, déjà, j'ai pas la place, et j'en aurais jamais l'utilité. Donc j'étais obligée de choisir, et le reste, on a été obligé de le donner, mais c'est des choses de famille qui se perdent, parce qu'en fait, on peut pas récupérer quatre services en porcelaine de nos arrière-grands-parents qui ne servent pas.
À l'époque, ça faisait partie du, je dis pas de la dot de mariage, mais dans les...
tradition un peu.
Oui. Ça faisait partie des cadeaux de mariage. Les gens se groupaient pour acheter deux assiettes, trois assiettes. Ça sert à rien, ça.
Non, mais c'est vrai que je me dis, ce rapport quand même à la porcelaine, on peut pas taire. J'entends ce que tu dis, que voilà, on a un rapport à la matière, mais c'est quand même une matière noble que tout le monde ne pouvait pas à acquérir et ne peut toujours pas non plus. Enfin, il y a des fois des services qui sont quand même extrêmement chers quand même, tu vois. Enfin, si derrière on prend pas conscience de la valeur de la fabrication, tu vois, c'est vrai que des fois on se dit on peut vite être attaché au luxe, alors finalement on s'attache pas à la production. Enfin, tu vois, de se dire oui c'est cher, mais parce que aussi il y a plein d'étapes de production. Des fois je trouve qu'on a peut-être pas assez mis en avant, tu vois, toutes ces étapes de tous ces métiers, toutes ces étapes de production et tout ce labeur finalement qu'il y a derrière une assiette.
Enfin, la différence entre la porcelaine de Limoges ou française un petit peu et dans des pays émergents, la Turquie, des choses comme ça, ils font que des pièces qui sont relativement simples à fabriquer, entièrement automatisées. Et chose qu'on ne peut pas faire à Limoges si on veut garder le panel qu'on propose aujourd'hui. Donc de toute façon, c'est, comme tu dis, les métiers de céramiste, tout ce qui est fait à la main, et forcément, le prix il s'explique. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé, une pièce, de la reprendre 10, 12 fois dans les mains avant de la sortir finie. Les usines qui crachent des assiettes en absolument en cycle automatique, il n'y a personne qui les touche. Donc de toute façon, on ne peut pas avoir des quantités comme ça à faire.
Toi, Frédéric, tu as travaillé à Bernardo pendant longtemps et il y avait beaucoup de... Enfin, dans ton travail, il y avait beaucoup de machines qui intervenaient ou tu faisais tout à la main ?
Beaucoup de machines et de plus en plus selon... les années ont passé et ça a évolué, c'est sûr. Jusqu'à des robots qui remplaçaient l'homme pour remplir les moules et tout ça.
Frédéric
Mais
Tardieu.
Mais ça n'a pas si bien marché que ça. Ça reste quand même beaucoup manuel. Et
technicien céramiste au craft.
Il y a beaucoup de professionnels différents qui sont à chaque étape. D'ailleurs, je me rends compte quand il y a des visites ici au craft que les gens ne sont pas conscients de ça. Ils ne le réalisent pas que ça passe dans autant de mains, du début jusqu'à la fin de la pièce. Ils ne s'imaginent pas ça. Et ça les impressionne toujours un petit peu quand je leur explique qu'il y a le modeleur, il y a l'établisseur, il y a celui-là qui coule, qui enfourne, qui finit les pièces, qui les décore, et j'en oublie plein.
Quand on regarde par exemple sur le modelage, le modelage, la fabrication entre le moule, la pièce au départ, le modelage, la mère de moule et tout ça, toutes ces étapes-là, les gens, ils sont complètement loin du sujet. Ouais. Et ça passe déjà, avant de sortir une série de moules, il y a quand même énormément d'étapes avant. Et ça, mais c'est vrai que c'est difficile à l'expliquer.
Pour avoir le moule de production dans lequel on va couler les pièces et qui s'use et qu'il va falloir remplacer, déjà, moi je sais quand j'ai commencé le métier, il y avait le modeleur, l'établisseur, le couleur de moule. Déjà, il y avait trois stades différents. Alors maintenant, c'est un petit peu moins vrai. Souvent, c'est un peu englobé.
Plus l'artiste qui faisait la pièce.
Plus l'artiste qui fait la pièce, ouais. Et c'est assez... Rien que ça, déjà, c'est marrant. Rien qu'à cette étape-là, déjà, ça passait entre trois mains différentes, quoi. Ouais. Juste pour avoir le moule de production. Donc, c'est encore une fois, les gens ne s'en rendent pas compte de tout ça.
Ne serait-ce aussi que les moules qui s'usent.
Oui.
Les gens disent qu'on a des moules, c'est si on les casse pas, on a des moules à vie. Ouais. C'est pas vrai. Donc, de toute façon, entre les gens qui font 50 passages dans un moule, ou ceux qui en font 25, ou ceux qui en font 75, Déjà, on n'a pas la même qualité. On pourrait effectivement discuter sur beaucoup de points d'usine. Chacun n'utilise pas le même principe de fonctionnement. Donc si on veut, et je crois que Limoges en a choisi le gage de la qualité, on n'a pas trop le choix de faire autrement. On n'a pas les mêmes critères que d'autres porcelaineries ailleurs, même en France, qui ont des qualités, et je dis un petit peu différentes. Je ne veux pas dire qu'elles sont moins bonnes, mais elles sont différentes. Donc c'est vrai que les circuits de fabrication ne sont pas forcément les mêmes.
Il y a vachement de responsabilité justement dans cette chaîne des métiers. Parce que pour que celui qui décore bien, il faut qu'avant, c'était bien émaillé. Enfin, il y a vachement de responsabilité, je trouve, aussi de se dire, il faut, pour faire un bon moule, pour que derrière la pièce qui est remise à quelqu'un d'autre pour couler dedans, voilà, il faut se porter un peu garant de cette étape-là pour que derrière quelqu'un d'autre travaille sur une étape. C'est vrai que je me dis, on ne se responsabilise pas de la même manière que quand on prend un projet du début jusqu'à la fin. Quelque part, c'est le sien. Là, il y a quand même un peu, bon, je fais cette étape-là pour que quelqu'un d'autre travaille dessus et encore quelqu'un d'autre. Donc, il y a quand même beaucoup de rigueur, je trouve, aussi là-dessus.
Oui, mais il y a aussi des choses, si tu veux, au départ. Je pense que le décor était aujourd'hui fait pas pour peut-être les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, le décor, c'était un outil pour cacher des défauts. Enfin, pas tous, mais il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est pour mettre en valeur encore plus la pièce. Donc, les défauts, au départ, le tri, il est sûrement beaucoup plus dur qu'à l'époque. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des qualités, des premiers choix qui sont nettement plus importants que ce qu'il y avait à l'époque. Avant, sur les fours ronds, par exemple, moi, j'avais fait un peu une recherche là-dessus. Quand on avait 30% de premiers choix, c'était exceptionnel déjà. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on avait des différences de température dans les fours qu'on ne maîtrisait pas, en fonction des alandiers, en fonction du chargement, en fonction de... Bon, ben, on avait des différences de température, peut-être de 100 degrés dans un four. C'était sur un four de 200 mètres cubes, ça ne paraissait pas aberrant non plus. Donc aujourd'hui, quand on a 15 degrés ou 10 degrés de différence dans un four, ça commence à être la limite maximale qu'on peut accepter. Donc effectivement, on a des cuissons qui sont nettement meilleures que ce qu'on avait à l'époque. Donc la qualité, elle est aussi bien meilleure. On a beaucoup moins de défauts à cacher aussi par rapport au décor. Et aujourd'hui, le décor, ce n'est pas un rebut amélioré, c'est un produit qui est fait pour être décoré. Donc l'objectif n'est pas tout à fait le même au début du décor.
Et quand tu es arrivé à Limoges, tu disais que tu allais dans toutes les industries, toutes les usines. Est-ce que tu as vu ce côté de concurrence, tu sais, de secret professionnel
Absolument.
Ah oui,
absolument.
Parce que ça existe encore, hein, des fois. Dans certaines manufactures, il faut montrer sa carte d'identité, être attendu.
Alors, c'était assez différent, parce qu'en fait, il y avait... Tous les directions d'entreprise ne se parlaient pas. Donc il n'y avait pas de relation, que ce soit les grands à Villan, Bernardo, ou même les petits, donc ils ne parlaient pas de ce qu'ils faisaient. Et alors il y avait par contre une relation qui se faisait au niveau des responsables de production. Eux, c'était des gens qui étaient sur le terrain vraiment, et qui les problèmes, c'est eux qui les avaient. Donc eux, ils avaient une relation avec le responsable de fabrication d'une autre usine, mais c'était clandestin.
Ah oui.
Ça ne se savait pas. Enfin, ça ne se savait pas, ou si on ne veut pas le savoir, mais les responsables d'unité, les directeurs d'usine, n'avaient aucune relation avec leurs collègues. Alors, tout le monde avait imaginé qu'il y avait la solution et la bonne solution pour le faire. En fait, c'était pas vrai, parce qu'ils avaient tous à peu près les mêmes choses. Ils avaient les mêmes fournisseurs de pâtes, ils avaient les mêmes fournisseurs de fours.
Est-ce que ça a beaucoup changé, finalement? Tu vois, entre ce que tu dis...
Pas tellement.
Bah,
pas
ouais.
Tellement, un peu quand même, parce qu'il y a plus de... Mais c'est vrai que...
Moi, j'ai l'impression que l'échange, il est quand même au niveau de la prod, plus que des dirigeants.
Oui, mais aujourd'hui, le responsable de production, et plus le bras droit du patron qu'à l'époque. À l'époque, c'était un responsable technique, mais ça se limitait à ça. Il n'avait aucune part de décision dans l'usine. C'était un employé, pas cadre dirigeant du tout. Il n'y en avait pas de cadre dirigeant. C'était le patron et les autres, c'était tous au même niveau, même s'il y avait des différences, mais c'était pas au niveau de la direction, c'est le patron qui prenait les décisions. Aujourd'hui, ces gens-là, les responsables, qui sont souvent des ingénieurs céramiques d'ailleurs, sont beaucoup plus impliqués dans la vie de l'entreprise et dans les décisions à prendre, que, notamment au niveau technique, où aujourd'hui il faut quand même beaucoup plus peut-être peser le pour et le contre quand on fait un investissement technique pour savoir un peu ce qu'on veut faire et ce qu'on veut réaliser. À l'époque, tout était manuel. Il n'y avait pas beaucoup de... Dans la fabrication, il y avait très peu de machines, quoi. Enfin, quelques machines, quelques convoyeurs, quelque chose comme ça. Mais après, il y a eu... C'est vrai qu'il y a eu des périodes. Il y a eu l'arrivée de la roller, des rollers dans la fabrication des assiettes, qui a été quand même un outil important et qui augmentait la productivité quand même sérieusement. Par rapport aux les calibreuses forts et tout ça, les calibreuses mains. Donc c'était.
Et entre les ouvriers, est-ce qu'il y avait une appartenance enfin, ils ne se parlaient pas du coup entre manufactures.
Sûrement que si. Oui. Oui. À ce niveau-là, on ne se posait pas cette question-là. Il n'y avait pas... C'est les ouvriers, on leur demandait de venir faire leur boulot, et puis ça se limitait à ça. Ils n'avaient pas de...
Ils changeaient d'usine ou quoi? S'ils ne trouvaient pas leur bonheur là, ils pouvaient aller facilement chez l'autre?
Ah oui, de toute façon, tu sortais le matin d'une usine, tu étais viré d'un côté, tu pouvais reprendre l'après-midi chez un autre. Il n'y avait pas de souci. Du travail, il y en avait partout. Donc c'était quand même... ce côté-là était assez... Il n'y avait pas de soucis, il ne se posait pas la question du chômage. Donc c'était quand même plus simple qu'aujourd'hui. Mais de dire qu'il y avait des relations entre les gens, sûrement que oui, parce que je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas, mais puisqu'ils n'avaient pas toutes les techniques. Alors les secrets de fabrication, qu'est-ce qu'il y a comme secret de fabrication? On peut mettre plus ou moins de défoculant dans une pâte, bon, c'est vrai. Mais en général, c'est KPCL qui donnait les formules, qui donnait les consignes à faire. Parce que c'est pour ça que, d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, quand il y avait un problème, c'était soit la pâte, soit le four, soit peut-être la fabrication, mais très peu. Parce qu'ils ne faisaient rien, ils appliquaient ce qu'on leur demandait de faire. Ça se limitait à ce genre de truc.
Et des gens qui font ton métier maintenant, il y en a plus beaucoup.
Aujourd'hui, c'est pas le même métier.
C'est pas le même métier, oui.
C'est pas le même métier. Aujourd'hui, on a besoin de techniciens informatiques. Sur les fours, il y a forcément un ordinateur, il y a forcément des automates, des choses comme ça. On demande quelqu'un, on demande pas des cuiseurs aujourd'hui. Oui. Ce qu'on demande, c'est quelqu'un qui sache faire marcher la technique et la technologie qu'on a mis en place. Pas forcément de faire une cuisson. À l'époque, quand on vendait un four dans une entreprise, les gens nous achetaient un outil de cuisson. Et on avait la responsabilité du produit qui sortait de la cuisson. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils achètent un four pour faire un cycle, pour faire une atmosphère définie. Si on fait ça, ils ont rempli leur contrat. Donc, ce n'est pas le même métier après de mise en service.
Okay.
Mais c'est, enfin, à mon avis, c'est moins intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a un problème de cuisson, on n'appelle plus le constructeur de four. Ouais. Toujours KPCL, forcément, parce que lui, il est fournisseur de la pâte. S'il y a un problème de la pâte, en général, ils font des relevés de leur pâte, ils ont des échantillons, ils les gardent, ou ils peuvent refaire des mesures. Mais le four, il n'est pas... Et il y a sûrement beaucoup moins de variations au niveau des fours qu'il y avait à l'époque.
Mais toi, tu fais encore ce travail de cuiseur un peu chez les uns et chez les autres. Tu vas quand même un peu apporter cette expertise-là, ce conseil-là, quand il y a eu des ateliers qui se sont montés. Tu as fait, toi, ce travail-là auprès d'eux. Tu as été facilitateur, que ce soit avec l'atelier du Blanc, avec Marc Firmin aussi, il me semble. C'est bien, du coup, t'as continué toi aussi un peu ce rôle-là, même avec nous.
Quand les gens me demandent, en général, j'y vais parce que ça me plaît. Donc, si ça me plaisait pas, je le ferais pas. Et puis, bon, en général, c'est des gens que je connais ou que j'ai connus par le passé. Donc, bon, si c'est pour rendre service un petit peu, je ferai jamais quoi que ce soit contre les constructeurs de fours, parce que je sais que ça peut être trop compliqué et mal pris. Donc s'il y a un problème de four, je n'interviendrai surtout pas sur des choses comme ça. Si c'est pour donner des conseils, j'ai même discuté avec certains porcelainiers pour l'achat d'un four, oui. On m'a demandé mon avis sur le sujet, j'ai donné mon avis, oui, c'est vrai.
C'est précieux ça, c'est bien de continuer à avoir cette transmission-là et ce conseil-là.
Quand on a trempé 30 ans ou 40 ans dans un même métier, c'est difficile de s'en sortir.
Hein. C'est un petit monde, la porcelaine, quand même.
C'est un petit monde, oui, c'est vrai. Surtout à Limoges. Surtout à Limoges, mais bon, en France aussi, à part... aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose... En France, tu aperçois qu'à Chauvigny, aujourd'hui, qui était un haut lieu de la porcelaine, au moins... industriel, c'est tombé bien bas quand même, et puis le Dorab, ça fait partie de Limoges, donc de toute façon, il n'y a pas grand-chose non plus.
Hein. Ouais.
À part ça, ben, la porcelaine en France, à part Sèvres qui reste le laboratoire un peu, mais bon, c'est pas des fabricants de porcelaine, c'est des fabricants d'art.
Oui.
C'est des pièces d'art qu'ils font, et puis... ils les vendent comme tels, quoi.
Les reproductions d'art, oui.
Bah si, puisqu'ils travaillent beaucoup pour l'État.
Oui, c'est ça, oui. Pour les services du président.
Et tous les cadeaux... les cadeaux de président, c'est fait à Sèvres, hein, donc... ils ne demandent jamais à Limoges de leur faire une pièce.
Oui.
Te rappelle de jeunes générations ou pas qui avaient envie de faire ce métier? Est-ce que tu vois, en étant vraiment sur un écosystème qui était très fort, quoi, en céramique, enfin de porcelaine, quand tu dis qu'il y en a un qui sortait, tu pouvais être embauché par là, tout le métier, est-ce que tu te rappelles, ouais, des fois, tu veux dire, ah là, j'ai envie de faire ça, est-ce que
Il y en a qui ont démarré des installations, par exemple, je repense à Destieux-Lavaux, qui étaient des gens venaient de la Creuse et qui voulaient monter leur atelier de porcelaine. Ils avaient commencé par reprendre l'atelier Couleuvre à Couleuvre, notamment. Bon, après, ils s'est installé, ils se sont séparés, ils étaient deux, ils se sont séparés. Il y en a un qui a monté un atelier à Verneuil. Bon, ça n'a pas marché non plus, parce qu'ils ne s'imaginent pas qu'il y a tout ce travail qu'il y a à faire. Et le problème, c'est que commercialement derrière, ce n'est pas simple non plus. Aujourd'hui, quand on n'a pas une marque à vendre, quand on n'a pas une référence, c'est difficile de vendre de la porcelaine. Tu la vends, mais pas au même prix. Donc, c'est pas un métier facile, la porcelaine. Je pense que quand on est reconnu... on a des gens qui viennent voir, mais au départ, pour se lancer dans quelque chose, je parle de ça parce que j'ai essayé de le faire. Donc, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Donc j'ai arrêté à temps, à mon avis, parce que j'aurais fait comme beaucoup d'autres, je me serais cassé la gueule. Et on parle de Jacques Régnier non plus, qui avait repris la porcelaine dans Bazac. Il s'imaginait que c'était si simple que ça. 6 mois après, il déposait le bilan. Donc c'est pas facile. Mais c'est tentant, je reconnais que c'est tentant, surtout quand on connaît un peu. Mais comme tu disais tout à l'heure, Frédéric, il y a un nombre de métiers incalculables dans la porcelaine. On ne connaît jamais tout et on ne peut pas tout connaître, même si on a vu, si on a une vue d'ensemble de ce qu'il faut faire. Techniquement, il faudrait avoir du personnel qualifié pour faire certaines choses ou passer par de la sous-traitance. Ça peut être aussi une solution d'en sous-traiter une partie. Mais tu maîtrises plus tout après, donc si tu veux tout maîtriser, il faut tout faire. Donc là, ça devient relativement compliqué. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui ont réalisé, qui ont fait des choses. Je pense à quelqu'un comme Pierre Arquier, qui au départ travaillait dans les porcelaines, travaillait chez Florence, travaillait à la pile à Saint-Thierrier. Donc il avait déjà, quand il arrive à Limoges, il était comme moi, il connaissait rien. Et il a appris sur le tas un petit peu d'être porcelainier. Et ensuite, après, il a monté son atelier de fabrication de porcelaine à Limoges, à la Fompineau. Hein, donc, et puis, là aussi, j'ai beaucoup travaillé avec lui parce que... Il avait besoin d'aide, je lui ai donné un peu quelques conseils. Et aujourd'hui, l'atelier Arquier marche relativement bien et c'est une belle réussite. Complètement. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire quelque chose. Il ne faut pas plaindre ni son temps ni sa peine et avoir un petit peu d'argent au départ parce que ce n'est pas facile quand même.
Je me dis, il ne faut pas perdre aussi cette formation de la technique.
Pauline Mal.
Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur des générations de céramistes qui travaillent plus peut-être des matières, tu vois, que tu peux sculpter. Ou en tout cas, en s'éloignant un peu de toute cette technique des métiers. Et aujourd'hui, je me dis, c'est un vrai enjeu, je trouve, de solliciter un peu les jeunes générations pour leur dire que ce n'est pas des métiers, des formations par dépit, mais que c'est vraiment un vrai métier d'art. Et moi, aujourd'hui, ça m'interroge beaucoup de comment revaloriser tous ces métiers-là pour un moment se dire que c'est un métier de main, enfin, et puis un métier de qualité, vraiment un métier d'art. Et je trouve qu'il y a eu un moment où ça a été un peu dévalué, ça, de dire il y a eu un peu des jeunes générations, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, bon, allez, tu vas aller là. Et maintenant, je pense que c'est quand même important de revaloriser cette formation pour leur réapprendre aussi la technique, parce que si derrière, ils veulent continuer un travail de céramiste, je me dis que c'est un plus quand même d'avoir cette technique-là. Et ça, je trouve que c'est un vrai enjeu. Et c'est...
L'éducation nationale n'a pas fait ce qu'il fallait. Quand on regarde le Majambo, par exemple, qui est un... lycée spécialement céramique où on forme des théoriquement des techniciens. J'y ai traîné aussi dans le Majambo. Quand on voit ce qui en sort, c'est déplorable. Et c'est pas comme ça qu'ils arriveront à former des gens. Ils ont une certaine valeur, les gens, mais il faut que... Je sais pas, et je pense qu'il faut qu'ils apprennent autre chose que ça. Tu vois, aujourd'hui, si j'avais une personne embauchée, si j'étais pas trop un truc, je les enverrais 6 mois au craft. Même s'il fallait payer la formation, je pense qu'ils verraient autre chose et ils verraient aussi du matériel qui semble aujourd'hui adapté à ce qu'on veut faire et surtout avec une approche de un peu tous les métiers, parce que ça passe par un peu tous les métiers, même si c'est la même personne qui le fait. Mais au moins, vous avez une connaissance de ce qui peut être fait. Et je pense que ça, il faudrait que les gens y pensent aussi.
Toi, Fred, ton parcours pour arriver jusqu'à technicien céramiste au craft, ta formation, rappelle-moi, comment tu as voulu te mettre dans la céramique ?
Je suis arrivé au Majambo.
Frédéric Tardieu.
J'avais 17 ans.
Technicien céramiste au craft.
Dans une manufacture. Et là, en fin de compte, après le stage, j'étais embauché pour apprendre le métier, mais sur place, quoi. directement.
Tu as appris plus sur place que ce que tu as appris au Mojambo.
Bien sûr.
Et quand toi, ta volonté, c'était un choix d'aller au Mojambo pour travailler à la Cermic ou c'était un peu...
Non, c'était la voie normale.
C'était ton cursus.
Et puis j'étais parti pour faire du décor à la base parce que je me débrouillais bien en dessin et je trouve ça intéressant de... Je me suis dit pourquoi pas du décor sur porcelaine, sauf qu'en fait je ne savais pas réellement ce que c'était. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai été mis dans un premier temps au modelage, au niveau du plâtre et des moules et tout. Et en fin de compte, il s'est avéré que ça m'a beaucoup plus plu que le décor en lui-même. Quoi.
Sûrement, ouais.
Donc, et puis là, je vous dis, suite à un stage que j'ai fait dans une manufacture, j'y ai pris goût. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça bien, j'étais un peu repéré. Et du coup, ils m'ont proposé de m'embaucher directement et de me former à l'usine. Quoi, directement.
Oui, mais sur le tas, après.
Et tu apprends encore tous les jours.
Ah oui, ça c'est sûr.
Dans ce domaine-là, on a toujours quelque chose à apprendre. Ah, c'est vrai qu'on ne sait jamais tout. Et puis, chaque pièce a un problème particulier. Un problème, il faut déjà réfléchir à ce qu'on veut faire, comment on va la faire, ce qui est possible. En plus, ici, ce qui est intéressant, c'est
surtout
que...
Surtout quand on arrive au crâne.
Ça part d'une idée d'un artiste qui n'a aucune notion de comment ça peut se fabriquer. Et après, derrière, il faut transposer son idée avec faire de la céramique. Donc c'est des fois un peu à jongler avec des balles carrées, quoi.
Ouais.
C'est une belle image.
Ça, c'est tout ton rôle que de réussir à guider les artistes vers quand même quelque chose qui se rapproche de ce qu'ils ont en tête, ou toi d'essayer de faire vraiment, de relever le challenge.
Nous, on tire chacun la couverture de notre côté et on essaye d'en faire quelque chose, mais... Mais bon, jusque-là, ça marche, mais ça arrive des fois. Mais ça nous pousse à toujours essayer de faire un peu mieux et finalement de y arriver.
Merci beaucoup à Alain Chassagnard, Anaïs Petit, Pauline Malle et Frédéric Tardieu d'avoir participé à cet échange autour de l'histoire de la porcelaine et de la céramique dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art 2026. Ce reportage a été réalisé et monté par Alexander Morin de la radio Bob FM à Limoges et a été enregistré dans les ateliers du Craft. Merci à Anaïs pour l'invitation et de l'accueil.